Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Si la musique adoucit les mœurs, comme on dit, je pense qu'elle peut aussi apaiser, rajeunir, voire les cœurs et contribuer également à briser l'isolement des personnes âgées. La Société pour les arts en milieu de santé, c'est un organisme qui offre des concerts aux patients et également aux résidents d'établissements de santé à travers tout le Québec. Et Françoise Henry, elle qui est directrice générale et artistique de cet organisme-là, sera là en deuxième partie pour nous en parler. Mais d'abord, la migraine qui touche 10% de la population et que l'on qualifie étant la troisième condition médicale la plus fréquente dans le monde. Bon, on peut considérer que ça touche beaucoup de monde, que ça a beaucoup d'impact également sur la santé de ces gens-là. Et pourtant, selon Dr. Elisabeth Leroux, elle qui est neurologue au CHUM, c'est une condition qui pourrait être davantage considérée. Elle, du moins, elle y tient. C'est pour ça qu'elle vient de publier ce livre, La migraine au-delà du mal de tête. On lui parle à l'instant. Docteur Elisabeth Leroux, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Je suis vraiment contente de vous retrouver. Vous étiez venue, on s'était parlé il y a à peu près un an de
Absolument.
Ça, à travers une autre émission diffusée ici, Experts en série. Et vous m'aviez dit déjà que vous concoctiez ce livre-là. Mm-hmm. Il est sorti, félicitations, il est sorti hier.
Il est sorti hier, oui, absolument.
Tout nouveau, tout chaud. Et ça vient un petit peu d'un mécontentement, parce que vous aviez cette observation que les patients qui vivent avec les patients ou les personnes touchées par la migraine sont peu mal prises en charge par le système de la santé.
Mais en fait, vu que la migraine, c'est une condition qui est très fréquente et qui n'est pas toujours extrêmement sévère non plus, on peut dire que les gens ont une perception de ça comme un problème très mineur ou très banal. Donc, je vais quand même souligner qu'il y a beaucoup de migraineux qui prennent des médicaments et puis qui cassent bien leur crise et puis dont la vie fonctionne bien. Mais il y a un pourcentage important de la population qui a des migraines qui ne sont pas soulagés et qui sont victimes un petit peu d'un manque dans l'éducation des médecins, d'un manque d'accessibilité au système pour des personnes qui sont jeunes. Hein. Souvent, ce n'est pas des personnes très âgées qui ont ça, c'est dans toute mm-hmm. la période reproductive, c'est-à-dire depuis même les enfants ont ça, des migraines.
Ouais.
Ce qui fait qu'on a tendance à sous-estimer, puis des fois, ben, les traitements sont disponibles, mais la personne n'y accède pas et la personne non plus n'a pas d'informations pour mieux comprendre ce qu'elle vit. Donc, il y a beaucoup d'explications à donner à un migraineux pour l'aider à se prendre en charge. Et dans le système en ce moment, ben du temps, on sait, ça manque.
Ouais.
Alors, les gens sont un peu laissés à eux-mêmes et parfois ont de la difficulté à trouver de l'information, on va dire, de qualité scientifique. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour en fait mettre dans un livre ce que moi je dis à mes patients dans mon bureau, sachant très bien que nos médecins de famille qui sont bien occupés n'ont pas toujours le temps à expliquer ces choses-là aux patients.
Ouais. Mieux comprendre, vous le disiez, ça peut être parfois difficile même pour la personne touchée par les migraines. Mm-hmm. Imaginons par les personnes, les 90 % de la population qui ne sont pas touchés, on touche du bois, par les migraines. Il y a beaucoup de mythes encore qui entourent cet état-là.
Bien, il y en a plusieurs, puis je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des mythes, c'est-à-dire des choses qu'on pense, mais qui sont fausses par rapport à la vérité, du moins la vérité scientifique qu'on comprend pour vrai maintenant. Et il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Hein. Donc, par exemple, la cause des migraines, les gens me disent toujours, mais pourquoi moi j'ai des migraines, j'ai tout un rythme de vie parfait, je fais très attention. Donc, il reste encore des inconnus combinés ouais. à des vieux mythes. Par exemple, ça n'existe pas, c'est juste psychosomatique, c'est de l'anxiété mal gérée, ou encore c'est des demi-vérités. L'anxiété a un rôle à jouer dans la migraine, mais elle n'en est pas nécessairement la cause chez tous les migraineux. Donc, il y a beaucoup de variabilité dans cette condition-là qui fait que nous, les humains, on aime ça, hein, avoir une vérité A égale B le
oui.
plus simple possible.
Oui.
Dans le monde du cerveau, en général, c'est pas possible. Et dans le monde des migraineux, en particulier, c'est encore pire. Donc, pour accepter cette variabilité-là et la comprendre, bien, les patients trouvent ça difficile. Je peux vous dire que les médecins aussi, et les oui. proches, les employeurs, les conjoints, les amis, observent les migraineux et disent, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu peux pas venir à mon party d'anniversaire? anniversaire, alors que hier, je t'ai vu puis tu étais très bien. Hein? Donc, il y a beaucoup de mythes qui viennent de là puis qui doivent être un peu déconstruits. Alors, on commence par un livre hein, et puis on continue à
enseigner. Et par cet organisme Migraine Québec aussi que vous avez fondé.
Ben oui, ça, c'était mon tout premier move, mon premier geste, c'était de créer un site web en français parce qu'en anglais, il y a quand même pas mal de ressources des États-Unis. Mais en français, encore là, il n'y avait rien. Donc, les patients se retrouvaient sur des sites dont l'information n'était pas nécessairement tout à fait adéquate. Alors, j'ai commencé par le site, maintenant, on a le livre. Et puis, la prochaine étape, c'est développer notre clinique. Vous avez toujours les scopes ici, hein, Marianne. développer la clinique du CHUM pour les céphalées afin de mieux former les professionnels de la santé pour diffuser un peu les soins. Parce qu'on s'entend que nous, au CHUM, on a une capacité de patients très limitée. Alors, notre but, ça va être de mieux former d'autres professionnels, médecins, infirmières, pharmaciens, pour prendre en charge les patients efficacement et puis qu'on se distribue le travail parmi les professionnels de la santé.
Oui, parce que les professionnels de la santé, que l'on parle des médecins de famille, des pharmaciens, des infirmières, sont peut-être pas tout à fait habilités à recevoir ces gens-là et à offrir un traitement adéquat.
Mais une des conséquences hein, du manque d'information ou un peu de la banalisation de la condition, c'est qu'elle n'est pas enseignée suffisamment dans les écoles de médecine. Moi, par exemple, en neurologie, quand j'ai fait ma résidence, ben, il n'y avait pas de responsable des céphalées vraiment. Il y avait mes deux collègues qui travaillaient, mais c'était très limité le nombre d'heures consacrées avec les migraineux. Alors, nos résidents sont formés, puis ils arrivent en pratique, ils se sentent désemparés. Dans les facultés de médecine de famille, puis s'il y a des gens qui m'écoutent, qui trouvent que j'ai pas raison, qui me contactent, mais il y a très peu d'heures passées à enseigner là-dessus. Puis je pense que pour les infirmières, c'est pareil. Alors, quand t'es médecin ou infirmière, puis on t'a jamais enseigné quoi faire, bien forcément, tu le fais pas nécessairement aussi bien que ce pourquoi t'as été bien formé. Alors, moi, je veux travailler sur ce déficit en éducation, pour que, à grande échelle, ça s'améliore. Parce que moi, si je m'assois dans un bureau demain, écoutez, on est 8 millions au Québec, ça fait 800 000 migraineux, ça fait 80 000 migraineux chroniques. Ouais. On s'entend que c'est beaucoup de monde. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres conditions de céphalée dont on s'occupe. Alors, il y a vraiment un travail de gestion à l'échelle provinciale. Puis si jamais il y a des gens au ministère de la Santé qui m'entendent, bien, rappelez-vous de ça. Parce qu'à un moment donné, je vais venir vous voir.
Elle va cogner à votre porte. Sans compter aussi, Élisabeth Leroux, les gens qui ne savent pas qui sont touchés par la migraine. Ça existe, ça, j'imagine. Mais en fait, je l'ai appris dans votre livre, qu'il y a des gens qui en souffrent, qui pensent que c'est simplement un mal de tête, mais non, c'est une migraine.
Absolument.
Comment on peut se dépatouiller dans tout ça?
Bien, il faut, c'est ça. Donc, en fait, on estime que le diagnostic de migraine est posé chez à peu près 50 % des patients qui en souffrent réellement. Ça veut dire qu'il y a presque un migraineux sur deux qui s'ignore. Dans certains cas, c'est parce que le mal de tête n'est pas trop intense ou sévère. C'est des migraines modérées qu'on appelle. Donc, ça passe pour un petit mal de tête ordinaire. On prend deux, trois Advil, ça va. Puis ça, c'est pas la fin du monde que ça soit pas diagnostiqué parce que la personne n'en souffre pas. Ouais. Sa vie fonctionne. Mais il y a des patients qui ont des migraines qui sont pas diagnostiquées. On leur dit t'as une névralgie d'Arnold, t'as des sinusites à répétition, t'as des crises de foie ou t'as d'autres types de maux de tête. Et là, ils n'ont pas accès au traitement approprié. Donc ça, c'est problématique. Et la meilleure façon de diagnostiquer une migraine, hein, c'est un mal de tête qui ralentit le fonctionnement et qui s'accompagne soit d'une intolérance au son ou aux lumières ou encore de nausées ou de vomissements et parfois d'une intolérance à l'effort et une douleur pulsatile. Si vous avez deux sur trois de ces facteurs-là, le plus probable, c'est que vous souffrez de migraine. Je rappelle quand même que le diagnostic final devrait être posé par un médecin, mais vous pouvez vous dire que si vous avez des maux de tête qui vous mettent dans un lit à la noirceur, là, c'est pas mal certain que c'est une crise migraineuse.
Et si vous êtes une femme, vous êtes peut-être plus susceptible d'être touchée par une migraine.
Oui, il y a 3-4 femmes pour un homme qui sont touchées, mais il faut quand même se rappeler que nos hommes hein, sont aussi touchés, puisqu'il y a 8 % des hommes, en fait, le pourcentage varie entre 10 et 12 % de la population, mais ça fait quand même pas mal de gars qui ont des migraines. Moi, ceux que je vois, souvent, ils s'ignorent encore plus que les femmes, puis ils n'aiment pas trop ça, avoir une maladie de madame. Hein? Donc, il faut des fois les convaincre puis les encourager à se traiter. Ils ont tendance à se négliger un petit peu, là, nos hommes.
Et la migraine, on le disait tout à l'heure, troisième condition médicale la plus fréquente dans le monde, et ce, tout pays confondu, et depuis des milliers d'années.
Ben oui, parce que si on retrouve dans l'histoire, dans les anciens Grecs, comme notre bon vieux Hippocrate, hein, le père de la médecine, il avait déjà décrit, lui, des patients migraineux. Puis quand on lit la description, je l'ai d'ailleurs mis dans le livre, pour que les gens comprennent que c'est pas une maladie qui date d'hier, ça. Que ce soit au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y a eu des descriptions médicales et de nombreuses théorie pour expliquer la cause de ce problème-là, parce qu'on n'est pas les premiers à se poser la question. Fait que je voulais que les patients réalisent, les personnes qui en souffrent, qu'ils ne sont pas seuls maintenant, parce que c'est très fréquent, mais ils ne sont pas seuls depuis des millénaires.
Ouais.
Et il y a des migraineux extrêmement connus et célèbres. Napoléon, par exemple, Elvis Presley, Thomas Jefferson, Lewis Carroll, le père d'Alice au Pays des Merveilles.
Donc, Docteur Élisabeth Leroux.
Ah, ben moi, je ne suis pas célèbre encore. Mais il y a des... Là, j'ai cité des hommes, parce que, bon, on sait, les hommes sont un peu plus célèbres dans le passé que les femmes. Maintenant, ça va peut-être changer. Mais donc, la migraine ne va pas nécessairement empêcher de mener une vie active, mais elle va influencer. Et puis, ben, comme je dis, moi, je ne veux pas dramatiser. Je veux juste donner l'accès au traitement approprié et favoriser la recherche aussi, parce que ben, c'est en faisant de la recherche qu'on va pouvoir améliorer la vie des gens qui sont atteints de migraines plus sévères, de migraines chroniques, où là, ils ont, ces gens-là, 15 à 30 jours sur 30 de céphalées, dont de crises de migraines. Et ça, c'est des gens qui peuvent avoir des formes très invalidantes. C'est comme l'asthme. Il y a des gens qui sont asthmatiques, qui ont un rhume, ils toussent 2-3 coups, c'est fini. Il y en a d'autres, ils font des crises très sévères. Comme toute maladie, il y a des formes peu sévères et des formes très sévères. Et ces pauvres personnes-là, ben, quand ils voient quelqu'un, ils disent « Ben oui, moi aussi, j'ai des migraines, j'en ai 3 par an, puis c'est ça, tu sais. » Alors qu'il peut y avoir des formes invalidantes.
Il y en a que c'est 3-4 par semaine.
Ah oui.
Vous en avez des patients
comme
ça.
Moi, la plupart de mes patients ont des migraines chroniques, puisque je vois évidemment les formes les plus graves. Mais et ces gens-là peuvent être invalides au travail en raison de leurs migraines. Mm-hmm. Et là, aller convaincre un employeur ou un proche, un conjoint ou un ami que vous ne pouvez pas travailler en raison de migraines, si vous avez un cancer, vous allez avoir une armée de personnes pour s'occuper de vous. Si vous avez une sclérose en plaques, ça va être, vous allez avoir beaucoup de soutien. Quand on est migraineux, ben, il n'y a même pas d'association de patients. Donc moi, avec Migraine Québec, c'est un peu ça que je veux faire. Hein. C'est un réseau de soutien pour les patients. Mm-hmm. Puis à l'échelle du Canada, même, il n'y a pas d'association de patients, alors que c'est extrêmement... Si on mettait tous les migraineux ensemble, ça ferait un beau lobby, là. Alors, l'idée, c'est que, mais pour faire ça, faut que les personnes souffrant de migraines ne se sentent plus coupables, mal à l'aise ou craintives d'affronter des professionnels de la santé ou de dire, moi, j'ai des migraines. C'est pour ça que je veux remercier Isabelle Maréchal d'avoir écrit la préface de mon livre, puisqu'elle est l'exemple d'une femme dynamique, proactive, impliquée dans la communauté, et elle souffre de migraines. Moi, encore là, j'invite les gens qui sont migraineux à ne pas hésiter à en parler pour justement briser ce stigma ou ce tabou qui empêche, en fait, d'améliorer la situation des gens.
Mais c'est quand même étonnant que ça ait, bon, que ça ait été identifié depuis si longtemps, vous le disiez tout à l'heure, par Hippocrate, mais qu'en même temps, les causes restent si nébuleuses.
Bien, effectivement, mais je vais quand même rappeler une chose, c'est que l'épilepsie, dans le Québec des années 40, c'était une possession démoniaque.
Ouais,
hein?
Ouais.
Donc, les maladies du cerveau ont été les dernières. Puis pourquoi? C'est parce que le cerveau est un organe tellement fragile.
Et complexe.
Quand tu prends un cœur, pas d'offense au cardiologue que je connais, mais tu sors le cœur de la poitrine, tu peux le couper en morceaux, tu regardes les valves, tu sais, tu comprends ça un peu plus facilement. Donc, les neurosciences, c'est quand même un domaine très, très à la mode en ce moment, puis c'est les sciences de l'avenir, puisque le cerveau reste un organe en général, qui est difficile à comprendre. Donc, l'épilepsie, par exemple, on comprend beaucoup mieux. La sclérose en plaques, dans les années, même soit avant la résonance magnétique, la sclérose en plaques, on était très limité dans notre compréhension. Donc, les migraines étant une maladie qui est quand même pas mortelle ni dégénérative, mais ça a été un peu négligé. Et puis, ben, maintenant, on a plus d'outils. Donc, maintenant, les scientifiques ont plus de moyens pour comprendre, mais évidemment, ils ont les moyens quand on peut payer, et c'est là encore où on doit subventionner, financer la recherche pour que les personnes du futur aient des meilleurs traitements à leur disponibilité.
Mm-hmm. Ce que vous soutenez dans ce livre, La migraine au-delà du mal de tête, c'est publié chez Trécaré, c'est qu'au-delà de la pilule, il y a également des habitudes de vie qu'il faut préconiser.
Ah ben oui, parce que l'idée, c'est que le cerveau migraineux est sensible à son environnement. Donc, pour l'instant, c'est pas une switch on-off. On ne peut pas donner une pilule qui va enlever ça du cerveau à tout jamais. C'est la première chose que j'explique à mes patients, parce que des fois, les attentes ne sont pas réalistes pour 2015. Peut-être dans le futur, on ne sait pas. Mais la première étape, c'est de bien observer les crises. S'il y a des déclencheurs connus, les éviter dans la mesure du possible. Et puis, ben, un cerveau migraineux, c'est comme une petite plante. Hein? Ça a besoin d'eau, ça a besoin d'alimentation, ça a besoin de sommeil. Le sommeil, dans notre société, on en manque de façon terrible. Donc, la migraine, c'est un peu comme un signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui est débalancé. Dans certains cas, juste en faisant ces gestes simples, on s'améliore. Dans d'autres cas, c'est plus sévère. Le cerveau est vraiment très instable. Et là, il faut avoir éventuellement recours à des médicaments pour stabiliser la tête. Mais tous les migraineux qui sont sévères, qui m'écoutent, ils vont dire, bien, docteur Leroux, moi, peut-être, je suis même votre patient, puis vous ne m'aidez pas tant que ça. Il y a des formes migraineuses pour lesquelles la recherche doit faire des efforts pour aider, parce que c'est pas facile de traiter tous les migraineux. Mais dans certains cas, des petits changements d'habitude de vie peuvent faire une grande différence, mais encore faut-il qu'un professionnel ou que quelqu'un vous le dise, parce qu'il y a des gens qui trouvent les solutions tout seuls, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas évident. Et puis, avec un petit coup de pouce, hein, de dire, écoute, il faudrait peut-être penser à pas boire 2 litres d'eau avant de te coucher pour pas passer la nuit aux toilettes pour avoir un sommeil de qualité. C'est un petit exemple que je donne. Il y en a plusieurs autres. Et j'ai beaucoup de patientes qui m'ont dit dans la quarantaine, si j'avais su ça quand j'avais 22 ans ou quand j'avais 30 ans, bien, ma vie aurait été différente. Et là, on parle d'années et d'années de crise. Alors, c'est comme la grenouille dans l'eau bouillante. Hein? C'est pas comme un cancer qui tombe sur la noix à 52 ans. C'est quelque chose, souvent, t'as ça dans l'adolescence. Puis après ça, il y en a encore un peu. Donc, les gens s'habituent. Puis, tu sais, ils prennent un peu de Tylenol, puis d'Advil. Puis là, ils dorment moins bien. Puis là, ben, ils sont... Donc, c'est quelque chose qui se fait au long terme. D'où l'importance de prendre ça au début, puis de donner de l'information juste. Et aussi de reconnaître la condition, sans dramatiser, mais dire, bien... T'as des migraines, on s'en occupe, voilà tes options. Si jamais ça va pas, on essaiera d'autres options. Puis si jamais ça va vraiment mal, bien au moins, on va pas te blâmer d'avoir des crises. Parce que moi, je vois des patients, ils se font carrément blâmer. Et là, la souffrance de la migraine se rajoute au blâme des proches. Et ça, c'est terrible. Parce que quand t'as quelque chose sur quoi t'as pas le contrôle, puis tu te fais blâmer pour ça... Bien là, c'est rajouter l'injure à l'insulte.
Mais les blâmes viennent encore une fois de l'incompréhension.
Bien entendu. Et aussi du fait que, on va le dire, c'est sûr que les patients migraineux, des fois, leur vie est compliquée parce qu'ils doivent éviter ci, éviter ça. Ils deviennent très exigeants par rapport à eux-mêmes et leur entourage, mais parce qu'ils craignent les crises. Donc moi, j'entends souvent, j'ai tellement peur d'avoir une crise, donc là, il faut manger telle chose. Ça force la personne à être très attentive à son environnement. Et parfois, bien ça, les proches trouvent ça un peu tannant parce qu'eux, ils peuvent pas dormir, boire plein d'alcool, manger n'importe quoi. Donc, ils comprennent pas pourquoi la personne à côté dit, bien moi, je dois faire attention. Mais c'est toute une question de respect aussi, de dire, bien pourquoi est-ce qu'une personne devrait être blâmée d'avoir à dormir un nombre d'heures raisonnable, pas abuser d'alcool ou avoir à faire de l'exercice puis à manger à heure fixe. Donc, il y a toute une espèce de notion sur le contrôle aussi, puis la santé générale, où des fois, les migraineux sont un peu blâmés, non seulement d'avoir leur conditions, mais d'avoir à faire attention à leur mode de vie, alors que parfois, ils ont des habitudes de vie qui sont peut-être meilleures que celles de la majeure partie de la population.
Est-ce que la crainte d'avoir des crises et, bien sûr, de la douleur, là, ça va ensemble, peut pas amener aussi des impacts psychologiques plutôt graves dans certains cas?
Ah, bien sûr, parce que c'est vraiment un phénomène. Imaginez-vous que vous savez que 2-3 jours par semaine, vous allez être torturé, hein, parce qu'une migraine, c'est presque ça. Je veux dire, quand tu passes ta journée à avoir mal au cœur, à vomir, puis
les rideaux tirés,
tu peux rien faire, puis la douleur, même couchée, est insupportable. Donc, c'est sûr que si tu sais ça comme être humain, bien, tes 2 autres journées que tu passes à attendre ta prochaine crise, t'es pas particulièrement up la vie. Alors, moi, mes patientes me disent, bien, quand la crise est finie, là, j'essaie de... En plus, souvent, les personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de rattraper le temps perdu. Donc là, ils rush pour compenser leur journée perdue. Et là, ce rush-là, lui-même, produit un débalancement qui va déclencher la crise suivante. Alors, nous, ce qu'on fait avec nos patients, c'est qu'on essaie de leur enseigner la gestion de l'énergie pour faire en sorte que tout est un peu planifié pour qu'il n'y ait pas ce phénomène de on-off où c'est une alternance entre crise-rush. Et ça mène à de l'épuisement et parfois de la dépression et de l'anxiété et des troubles du sommeil. Et tout ça, ça fait un joyeux cercle vicieux qui fait en sorte que la personne est très malheureuse.
Je ne sais pas si on peut affirmer que dans certains cas, vivre avec la migraine peut amener justement une plus grande conscientisation de son mode de vie et à prendre soin de soi. Si c'est le cas, bien, on peut voir le bonheur qui frôle le malheur et puis aussi se procurer ce livre-là où vous parlez justement de gestion des crises, de saines habitudes de vie et de tout le fonctionnement du cerveau des gens qui vivent avec la migraine. C'est fort intéressant. Docteur Elisabeth Leroux, merci beaucoup. Et puis, je rappelle le titre de ce livre, La migraine au-delà du mal de tête, c'est publié chez Trécaré.
Merci.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635. Et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Françoise Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale et artistique de la Société pour les arts en milieu de santé, qui rejoint énormément de gens. Rémi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter les tam-tams, merci, qui rejoint énormément de gens. On parle d'environ 25 000 personnes qui profitent des concerts de votre société au moins une fois par année, principalement des personnes âgées. Comment vous est venue cette idée-là de créer la société?
En fait, c'est une idée de personnes qui étaient passionnées par la musique. Des gens qui pensaient que la musique a une très grande valeur et pourquoi ne pas l'amener, dans le fond, à des gens qui, malheureusement, pour des raisons de mobilité ou de maladie, n'y ont plus accès. Mm-hmm. Donc, en 2009, il y a trois personnes qui se sont réunies comme ça pour fonder la Société pour les arts en milieu de santé. Et en fait, je dois mentionner que c'est à la base une initiative qui nous vient de Vancouver.
Ah oui, ça existe donc dans d'autres provinces.
Oui, ça existe dans les prairies, à Vancouver, au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.
Mm-hmm. Et le but, c'était d'aller joindre aussi des musiciens professionnels, de les intéresser à votre cause.
Tout à fait. En fait, on est un peu la courroie de transmission entre des artistes qui veulent s'impliquer dans leur communauté de façon très pertinente.
Oui. Ciblée.
Oui. Et puis un milieu qui, malheureusement, pour diverses raisons, est privé d'art, est privé de beau, est privé de musique. Donc, nous, dans le fond, notre travail, c'est de les jumeler pour faire en sorte qu'il y ait des belles rencontres qui s'opèrent.
Vous les choisissez comment, ces artistes-là?
Ce sont des musiciens qui passent des auditions avec nous. Donc, dépendant des besoins que l'on a, on va chercher différents dossiers, différents types aussi de musiciens. Donc, on fait de la musique classique, bien sûr, mais aussi du jazz, de la musique du monde.
Il y a des chanteurs aussi, je crois.
Il y a des chanteurs, bien sûr, qui sont souvent les favoris, d'ailleurs. Ça touche beaucoup les personnes âgées, le chant. Et on leur fait passer des auditions qui sont d'ailleurs dans les CHSLD.
Mmh, directement dans le milieu.
Oui, parce que, en fait, ce qui est important pour nous de voir, c'est comment le musicien est capable de réagir à cet environnement qui, pour lui, est non traditionnel. Hein? Ce n'est pas une salle de concert, tout ça. Et donc, pour nous, en fait, c'est presque aussi important d'avoir des musiciens qui ont des très bonnes habiletés musicales. Bien sûr, ce sont des professionnels, des grands professionnels, mais qui sont aussi capables d'entrer en interaction avec cette clientèle-là qui est, il faut le dire, spécifique. Là.
Oui, et qui est... La clientèle, de par sa nature, peut amener des imprévus. Je lisais à un moment donné une dame qui, à un moment donné, s'est mise à chanter. Et puis là, les musiciens ont dû se réorienter complètement. Ça prend de bons communicateurs, des gens qui ont une grande sensibilité et qui sont prêts à improviser aussi avec ces imprévus-là.
Tout à fait. Et c'est ce qui fait la couleur absolument extraordinaire de ces concerts-là. C'est qu'on ne sait jamais d'avance la réponse que les gens vont avoir à la musique.
Mm-hmm.
Et c'est très varié, comme vous le dites, ça peut passer de chanter ou des fois se manifester bruyamment ou non. Alors, le musicien, les artistes doivent faire preuve de beaucoup de souplesse et de flexibilité. Et c'est ce qui fait d'eux, dans le fond, beaucoup plus que des musiciens, en fait. Hein? On appelle ça des concerts, puis c'est vrai que c'est ce que c'est, mais en fait, c'est aussi des rencontres très signifiantes qui se passent aussi au-delà de la musique.
Est-ce que vous récoltez des commentaires des résidents des CHSLD, par exemple, de ce qu'ils ressentent au contact des concerts?
Écoutez, oui, parce que la musique, ça fait aussi beaucoup appel à leur mémoire, d'un temps qui est passé pour eux. Donc, souvent, ça les amène aussi dans un autre espace-temps où ils étaient peut-être plus jeunes, plus en santé. Mm-hmm. Donc, ça leur redonne des beaux souvenirs. Je veux dire, j'ai assisté à un concert récemment où une dame disait « J'ai rajeuni de 25 ans en une heure.
Mm-hmm. »
Alors, c'est ce genre de commentaire-là qui nous dit que notre action est très, très pertinente et appréciée. Puis d'un autre côté, on a des gens qui vont être, par exemple, atteints de maladie d'Alzheimer et puis que l'espace d'un instant, parce qu'ils ont reconnu, par exemple, des paroles particulières, ils vont être capables tout d'un coup de reconnaître, par exemple, les gens qui les accompagnent.
Mm-hmm.
ou encore dans le cas d'aphasique, de gens qui ont perdu l'usage de la parole, qui tout d'un coup vont se mettre à chanter. Donc, des fois, c'est des témoignages, mais des fois aussi, c'est vraiment une réaction physique mm-hmm. au son puis à la musique. Mm-hmm. Ouais, c'est fascinant, en fait.
Mauvaise nouvelle, il y a de ça quelques mois, je pense, vous vous êtes vu retirer une subvention qui a fait que les concerts sont moins nombreux. Là, vous en faites, je pense, avant c'était 600 par année, maintenant 500. C'est pour ça qu'il y a un concert bénéfice le 31 mars. Bon, j'imagine que c'est pour renflouer les coffres un petit peu.
C'est sûr que le financement des organismes sans but lucratif, c'est toujours une priorité, une préoccupation. Le concert bénéfice, ça sert à faire ça. Bien sûr, on a un objectif de 100 000 $ qui est en bonne voie d'être atteint, d'ailleurs. Donc, on est très satisfaits. Puis, c'est aussi une façon de faire parler de notre belle société, de sa mission qui est vraiment importante.
Mm-hmm.
Donc...
Oui, de vous faire connaître, oui, parce exactement. Que c'est comme ça que moi, j'ai entendu parler voilà. de vous. Pourtant, vous existez depuis quelques années, et ce, partout en province, quand même, il faut le souligner.
Oui, c'est ça. Alors, on est à Montréal, bien sûr, à Québec aussi, à Charlevoix. Et on a commencé à prendre l'expansion aussi. Donc, on commence des concerts à Laval. On n'était mm-hmm. pas à Laval, alors mm-hmm. on a commencé à Laval. Et aussi à Sorel. Puis il y a toutes sortes de petits projets pilotes qui vont se dessiner à travers la province.
Françoise Henry, comment ça fonctionne si des CHSLD veulent, désirent avoir recours à vos concerts, à vos services?
Mais en fait, via la page web de l'organisation, c'est assez facile de nous contacter. Alors, c'est le www.samsanté.org. Et tout est là, donc, pour communiquer avec nous et voir s'il y a une possibilité de partenariat.
Et on peut aussi aller vous voir le 31 mars du côté, j'ai ça sous les yeux, c'est du côté de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts pour le concert bénéfice.
Voilà, vous êtes tous bienvenus.
Merci beaucoup, Françoise Henry. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci, Rémi Hermoso, à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Demain, c'est déjà la dernière. On vous donne rendez-vous, bien sûr, 14 h, même heure, hein, même poste. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.